Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Niveau Supérieur. Aujourd'hui, sortez vos agendas, révisez vos cours de maths, prenez quelques centimes pour acheter un Red Bull au distributeur parce qu'on va réviser à la CAFETT en jouant à Persona 5. Vous remarquerez, chers auditeurs, chères auditrices, que je sors un épisode un mois après le suivant. Et oui, alors déjà, bon, gros événement. Normalement, le podcast est censé être bimensuel, bimestriel, je ne sais plus comment on dit, en plus d'être officiel, évidemment. Donc, événement. Événement quand même. Il ne se passe pas 6 mois entre deux podcasts. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est faire pause, télécharger ou mettre à jour iTunes et mettre 5 étoiles à ce podcast pour fêter un peu l'événement. Ça serait la moindre des choses. Après, bon, je vous force pas, mais ce serait la moindre des choses. Je le dis jamais dans les podcasts, donc là, j'y pense, bim, je le dis. En plus, il y a de quoi fêter ça. Donc voilà, 5 étoiles, podcast officiel, merci beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Persona 5. Persona 5, 5 étoiles, tout est lié. Enfin, non, pas vraiment. Persona, c'est une série qui, aujourd'hui, est très réputée dans le monde des JRPG. Hein. Je pense que ça a maintenant pas mal la cote, c'est très connu. Comme nous, en tout cas, au moins, peut-être, si vous connaissez de loin, Persona, ça vous dit peut-être quelque chose. Ça n'a pas toujours été le cas, je pense qu'en gros c'est devenu connu de plus en plus avec le bouche à oreille et tout depuis Persona 3 qui date du milieu des années 2000, qui est sorti sur PS2. Persona 3 et ceux d'avant, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9, ok. Les Persona ils sont développés par un studio japonais qui s'appelle Atlus. Atlus, on pourrait du coup penser que c'est un studio pas si vieux que ça si je parle de popularité grandissant dans les années 2000, mais c'est un très vieux studio Atlus, fondé en 1986. Et en fait, Persona, bon, je pense que vous le savez, c'est un spin-off de la série principale de JRPG développée par Atlus, qui est Megami Tensei, et ensuite Shin Megami Tensei. Et c'est une série de JRPG, les Megami Tensei, les Megaten, comme on dit au Japon, qui ont commencé à sortir sur Famicom en 1987. Avant Final Fantasy, avant Phantasy Star, en fait, c'est le deuxième JRPG après Dragon Quest, Megami Tensei 1. Donc c'est fou, en fait. Même moi, je me rendais pas compte que c'était juste une des séries à la base du JRPG, quoi, finalement. Donc bah, je crois même pas que j'en ai parlé avant dans l'histoire du JRPG qu'on a fait un petit peu au tout début de l'émission, parce que je savais même pas que c'était si vieux et que c'était vraiment à la base du genre. Il y avait Atlus, ils étaient là. Il y avait Enix. Il y avait Squaresoft et il y avait Atlus, quoi. Et il y avait ceux qui font Phantasy Star, on en parlera peut-être un autre jour. Mais du coup, c'est important. Dès le début, les Megami Tensei, ils sont voulu se positionner un peu comme la contre-culture. Dragon Quest, c'est un récit de fantasy très classique, high fantasy, medieval fantasy, ce que vous voulez, qui reprend vraiment des codes assez connus. En même temps, Dragon Quest, ça s'inspire de Wizardry, d'Ultima, donc les jeux de rôle occidentaux inspirés de Donjons et Dragons. Évidemment que les gens de chez Atlus, ils sont eux aussi inspirés par la même référence, mais ils ont envie de prendre un peu le contre-pied. Ils se basent pour ça sur un roman d'urban fantasy, en gros, on peut dire ça, qui s'appelle Megami Tensei, rédigé par, par Aya Nishitani, auteur japonais, qui commence à les publier de façon officielle en 1986. Avant, il s'était publié sur des forums, etc., enfin, l'équivalent des forums à l'époque et tout. Et justement, Megami Tensei, le premier JRPG fait par Atlus, c'est censé être une des deux adaptations en jeu vidéo du roman, qui a eu un petit peu de succès. Ils se mettent d'accord avec l'autre studio qui adapte le roman sur console pour pas faire la même chose. L'adaptation console n'est pas ouf. L'adaptation que fait Atlus, elle, aura du succès, sera une sorte de dungeon crawler très inspiré de Wizardry, donc vu à la première personne, des donjons, un scénario qui s'inspire du bouquin avec une histoire de démons, de logiciels créés pour invoquer des démons et des lycéens et l'apocalypse, etc., etc. Dès le début, ça se voulait très mature, sombre, une esthétique et un bestiaire inspiré d'une sorte de syncrétisme religieux qui est déjà présent dans le livre, où on prend un peu tous les démons et les méchants de plein de mythologies et de religions différentes. La Bible, le judaïsme, les religions nordiques, les religions égyptiennes, etc. etc. Donc il y a Lucifer, il y a Loki, il y a Seth, etc. On prend tout le monde, quoi. Tout le monde est là. Les Avengers des méchants. Et voilà. Et c'est intéressant de se rendre compte que dès le début, il y avait cette histoire un peu, cette volonté de se poser comme la contre-culture du JRPG. De ne pas faire ce que faisait Dragon Quest, de ne pas être gentil et sage et attendu, et de faire un truc qui différait vraiment. Dès le Megami Tensei 1, il y avait cette histoire de démon qu'on pouvait recruter dans son équipe, un peu l'ancêtre de Pokémon du coup. On a peut-être parlé déjà dans l'épisode de Pokémon, j'ai peut-être dû le name dropper. Mais du coup voilà, c'est assez intéressant de se rendre compte de l'impact qu'a eu cette série et de sa longévité. Megami Tensei devient Shin Megami Tensei quand il sort sur Super Nintendo, parce que Shin en gros ça veut dire nouvelle version, nouveau plus quoi. Du coup, on repart sur une nouvelle série, sur une nouvelle base avec le changement de génération, en passant de la NES à la Super NES. Ça continue, ça marchote, c'est pas un grand truc, hein, ça peut pas taper FF ou Dragon Quest, mais ça a son petit public de fans, un petit public de niche, ambiance, œuvre un peu moins connue, mais respectée malgré tout par les aficionados du genre, hein, n'est-ce pas ? À tel point qu'Atlus va de vite devenir indépendant et publier eux-mêmes leurs propres jeux, et puis s'appuyer sur des constructeurs comme Nintendo, Sega et tout, ce qu'ils ont fait au début. Du coup, ça fait assez longtemps qu'ils sont tout seuls, qu'ils font leurs jeux, qu'ils les éditent eux-mêmes, depuis les années 90 en gros. Donc c'est assez fou aussi de se dire que c'est un studio qui pèse encore aujourd'hui et qui arrive à s'en sortir sans l'appui d'une grosse boîte derrière. Enfin maintenant c'est une grosse boîte, mais au départ pas tant que ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, cet univers des Megaten, il va être développé dans plein de sous-séries différentes. J'ai même pas le temps de les lister toutes, enfin je peux le faire parce que je vais sur Wikipédia. Il y a de noms, je connais pas tout, je connais pas grand chose à cette série. Il y a les Devil Summoner, les Persona, Last Bible, Majin Tensei, Devil Children, Digital Devil Saga, Devil Survivor. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance, toujours des démons, toujours des trucs. Je crois qu'il y a aussi d'autres sous-séries dans les sous-séries, c'est très compliqué. Il y a un bouquin de Third Edition que Steven m'a offert et que je remercie, sur la saga Shin Megami Tensei, qui retrace un peu la création et tout ça. J'ai lu des bouts, des extraits de ce livre qui est super. Je vous le recommande, la couverture est très belle, c'est très, très instructif. Mais je vais pas rentrer dans tout ça parce que, bon, en plus on parle que de Persona. Si un jour je fais un SMT, bah j'en parlerai à ce moment-là éventuellement, mais là, bon. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir que Persona, qui est maintenant, je pense, la licence la plus connue en Occident par rapport à Megami Tensei en tant que tel, bah c'est juste un spin-off de base de la série originelle. Persona, c'est un spin-off qui justement, dès les années 90, quand il sort sur PS1, est censé être un peu plus léger que la série principale, qui souvent, du coup, on l'a dit, est sombre, se veut un peu mature, adulte, aborde des thèmes assez, assez dark, et parfois et qui se veut un peu profonde et philosophique, et qui veut... on va dire, réfléchir à des questions très larges. Là, ils ont envie, avec Persona, de réduire un peu l'échelle et s'intéresser à des histoires plus personnelles, centrées sur les personnages et centrées surtout sur une période de la vie particulière qui est le lycée au Japon. Une période qui est vraiment importante dans la pop culture et dans les œuvres japonaises, parce que souvent, c'est présenté comme le dernier moment, on va dire, entre guillemets, de liberté relative, parce que ta vie n'est pas encore toute tracée. Tu peux encore réfléchir à ce que tu veux faire, tu as encore un peu de marge, on va dire, pour évoluer en tant que personne, avant de te fixer sur un chemin que tu vas devoir, si tout va bien dans la mentalité japonaise telle que je la comprends de très très loin, te fixer sur ta route et ne plus en sortir. C'est pour ça qu'il y a un peu cette nostalgie dans certaines œuvres japonaises du lycée, ou en tout cas de la fin du lycée, qui annonce un passage à l'âge adulte qui peut être perçu comme beaucoup plus lourd à porter que dans les sociétés occidentales, où on peut tous aller à la fac et glander. Ils peuvent sûrement le faire aussi, mais en tout cas, c'est moins vu comme tel dans les œuvres de pop culture auxquelles nous, occidentaux, avons accès. Hein, je mets beaucoup de guillemets parce que je connais pas le Japon, je vais pas faire le sociologue de bas étage. C'est juste comme ça que souvent c'est présenté dans les œuvres auxquelles on a accès. Moi, j'ai jamais fait aucun personnage, j'ai dû tripatouiller un petit peu Persona 3 sur PS2. Je sais même pas pourquoi je l'avais acheté, mais je l'ai quelque part. Du coup, j'y ai joué quelques heures, je vais jamais aller très loin. Mais là, du coup, Persona 5, ça m'attirait pas tant que ça. En fait, je sais que le principe de Persona, depuis le 3 en tout cas, qui a vraiment formalisé ce système, c'est que c'est un JRPG classique, on fait des donjons, on tape des monstres et tout, avec aussi toujours le système hérité des Megaten, originaux où on peut recruter des démons un peu comme des Pokémon et s'en servir dans son équipe. Moi, je savais ça. Et que Persona, du coup, ça prenait ça. Et qu'à côté, il y avait une sorte de simulation de vie estudiantine, de vie lycéenne, où on devait aller en cours, se faire des copains, voire même nouer des relations amoureuses, une sorte de dating sim un petit peu. Et moi, ça, je m'en battais les couilles. Je n'avais pas envie de jouer à un dating sim, ou même à un simulateur de vie lycéenne, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc autant jouer à des JRPG où on fait pas ça. Du coup, ça ne m'attirait pas plus que ça, je savais que ça avait très bonne presse, très bonne réputation. Mais je n'avais pas envie d'y jouer. Et je me suis dit, une sorte de conscience professionnelle, mais quand même, Stavro, Persona, tu connais pas, tout le monde en parle, nanani, nanana. Et du coup, j'y ai joué. Ça m'a pris 100 heures. Et puis, ben, on va en parler. Voilà. La question, c'est quoi? Je pense que la problématique, est-ce que j'ai envie de vous la dire tout de suite? Ouais, si on peut. Le pitch de Persona 5 par rapport aux autres, c'est que on joue un mec qui n'a pas de nom, on peut lui donner le nom qu'on veut, le protagoniste, et ses copains qui sont des Phantom Thieves, des voleurs fantômes, des sortes de, on va dire, voleurs, des rebelles. On joue des rebelles. Des rebelles qui vont changer la société. Un jeu que beaucoup de gens décrivent comme, du coup, forcément très politique, parce que on joue des gens qui veulent réformer la société. Ma question, elle est très simple. Après avoir fini le jeu, est-ce que Persona, c'est vraiment un jeu si politique que ça? Est-ce que c'est vraiment un jeu de rebelle? Voilà. On va réfléchir à ça ensemble. Je pense que c'est le questionnement qui m'intéresse le plus, même si on parlera forcément un petit peu du reste, mais c'est là-dessus que j'aimerais insister parce qu'il y a de quoi dire. Hein? N'est pas Lorenzo Lamas qui veut. Allez, alors si vous connaissez pas la référence, ça va être un peu chiant. Je vais me débrouiller pour mettre un petit extrait. Vous pourrez comprendre la blague. Vous allez bien rire chez vous, vous allez voir. Allez, c'est parti.
Il était flic, il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
Comme d'habitude, pas s'intéresser à ce qui saute aux yeux. J'en ai marre de dire ça à chaque fois. Faut que je trouve autre chose. Mais ouais, en tout cas, le jeu est beau. Il n'est pas du tout photoréaliste. Il a un graphisme très inspiré de l'anime, évidemment. Il y a même pas mal de scènes d'animation, d'anime. Les scènes cinématiques sont remplacées par des scènes animées qui sont cool. Le design des personnages fait très... Alors, comment dire ça? Je crois que dans le livre que j'ai lu, il parle de manga mainstream, d'anime mainstream. C'est vrai que c'est un style animé, mais qui est très léché, très fin, mais qui n'a pas une patte, on va dire. Non pas qu'il n'y a pas de patte, il y en a une, mais on s'y retrouve si on connaît les animés, quoi, grosso modo. Je ne sais pas comment le dire parce que je suis pas un expert en musique, je ne suis pas un expert en visuel, je suis un expert en pas grand-chose, en fait. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est que ça se démarque vachement du style... du Demon Painter, comme on dit, le surnom de Kaneko, je crois qu'il s'appelle comme ça. Kaneko, qui est le designer des Shin Megami Tensei, qui a un style vachement plus froid et sombre. Vous pouvez taper, je sais pas, Shin Megami Tensei et voir des images, même des vidéos dans les trailers et tout. Alors je crois qu'il a arrêté de bosser sur SMT après le 3, je crois, ou le 4, donc sur le 5, c'est pas lui directement qui fait les bonhommes, mais c'est en gros celui qui a designé depuis le début les personnages, les démons et tout, enfin depuis le début, depuis en tout cas très tôt dans la série, peut-être depuis Shin Megami Tensei, même s'il n'était pas sur les Megami Tensei 1 et 2 de la Nintendo, de la NES, de la Famicom, il est venu très vite, je crois, dès ceux de la Super Famicom, de la Super Nintendo, donc ça fait longtemps qu'il a imposé sa patte à l'univers des Megaten, et justement dans Persona, ce n'est pas ce bon vieux Kaneko, c'est Shinigori Soejima au design des monstres et des personnages, et lui du coup il est réputé pour avoir un style moins froid, plus chaleureux, plus pop. Pop, on va en reparler de ce mot, pop.
Quelles vont être les prochaines étapes pour les Watford? Quelles aventures attendent nos amis? Vous le saurez dès la semaine prochaine dans Plus de Popstars. Mais en attendant, n'oubliez pas, rien ni personne ne peut échapper à l'œil de Plus de Popstars. Bye bye!
Peut-être j'arrête parce que ça va être chiant à monter si j'arrête pas de dire ce mot, putain. J'y avais pas pensé. En gros, Persona, Soejima est très connu pour les designs qui effectivement changent beaucoup par rapport à Megami Tensei. Ils sont beaucoup plus chaleureux. Et il y a aussi Hachino à la réalisation, Katsura Hachino, qui est depuis en gros Persona 3, celui qui est en charge de la réalisation. Donc un peu, il donne les idées principales, il réfléchit au thème du jeu, au système et tout. Et après, il a des gens, on en a parlé dans l'épisode d'avant, qui vont implémenter tout ça, donner leur opinion, leur avis. Ce n'est pas bien sûr le travail de deux hommes, mais ce sont en tout cas les têtes d'affiche de la série Persona depuis le 3, ces deux-là. Et les têtes d'affiche de Megami Tensei, donc Kaneko et je crois Okada, je le dis vraiment de tête, ce nom de producteur là, mais Kaneko, qui était pas seulement pour les visuels sur Megami Tensei, mais qui très vite a pris une place beaucoup plus importante et qui touchait un petit peu à tout, ont laissé le champ libre à leur petit frère, au spin-off Persona, pour que ça change justement de Megaten et que ça s'éloigne un peu de la série principale et que ça ait son propre style. Et ce style Persona, du coup, il est beaucoup plus pop, je ne le redirai plus. Et ça saute un peu aux yeux dans les graphismes par rapport à Shin Megami Tensei. Si on compare Shin Megami Tensei 5 et Persona 5, on voit que c'est très différent dans les univers visuels. Ce qui a aussi, en plus des graphismes très jolis, très animés de Persona, c'est les menus. Alors là, les gens en ont fait des caisses et je les comprends. Quand Persona 5 est sorti, tout le monde s'est vraiment extasié devant les menus. Oui, les menus, je vous promets. Vraiment juste les menus. L'interface graphique du jeu, elle est extrêmement léchée. Elle est extrêmement pop. Alors ça veut dire quoi, pop? Je suis pas sûr, j'ai pas envie d'aller vérifier. Je pense qu'on comprend ce que ça veut dire, mais qu'on aurait du mal à l'expliquer. Je trouve ça assez intéressant. En gros, il y a des couleurs un peu flashy.
Quadricolore.
Ah, c'est pas mal.
Parce qu'il y a quatre couleurs, première. Quadricolore.
C'est pas mal.
C'est quatre couleurs. Ils sont quatre couleurs. Quadricolore. C'est
ah,
pas
c'est
mal,
joli.
Ça.
Ah, hein.
Ça,
pas mal.
C'était le premier que j'ai dit, hein.
Pas mal.
C'est un flash que j'ai eu il y a deux semaines, j'ai rien osé dire. J'ai dit, je le dirai à Valérie lui-même.
C'est léché, c'est design, on pourrait dire aussi, mais pareil, ça ne veut rien dire. C'est en tout cas très actuel, je pense que ça peut vouloir dire ça, très actuel, très accessible, très flashy. C'est, je pense, l'image que le grand public se fait de quelque chose de léché, et de bien fait, et de... Oui, on ressent en tant que non-connaisseur qu'il y a eu une attention à l'ergonomie, aux détails, et que ça correspond bien à l'air du temps, mais que c'est un tout petit peu en avance... ou en tout cas au top, mais pas trop, sinon on comprendrait plus, et ce serait de l'avant-garde, et on dirait pas que c'est pop. À mon avis, c'est comme ça qu'on peut essayer de réfléchir à ce concept, et effectivement, Persona 5 rentre vachement là-dedans, c'est très de son temps, c'est sorti en 2016 au Japon, en 2017 chez nous, et les menus sont très jolis, sont très ergonomiques, c'est très agréable de se balader dedans, effectivement, c'est après... Moi, j'ai pas joué à Persona 3 ou 4, mais en regardant quelques images, parce que je me suis posé la question, c'est une tentative, ou en tout cas une initiative, qu'ils ont déjà commencé à faire dès le 3, dès la PS2, et dès ensuite Persona 4, qui était sur console portable, je crois, sur PSP, si je me trompe pas. Il y avait déjà des menus un peu flashy comme ça et tout. Peut-être juste que là, ça... ils atteignent enfin une sorte de maîtrise qui fait que ça a vraiment marqué les gens, mais je pense que ce côté résolument pop fait que ils ont réussi à l'implémenter d'une façon qui a vraiment scotché tout le monde, et c'est vrai que c'est assez plaisant, l'interface graphique, etc., etc., elle est très réussie. Le jeu, il est léché de façon, on peut le dire, toute l'interface, tous les designs de personnages, jusque les transitions de fin de combat, les écrans de victoire du combat, tout est vraiment stylé, il y a des illustrations très belles. Il y a un style et un délire qui est cohérent visuellement de bout en bout et qui fait qu'on est pris dans l'univers, qui nous lâche pas, tout est très bien pensé. Et ouais, je pense que c'est ça, c'est le côté jusqu'au boutiste qui marque vachement, parce que tout... va dans le même sens et tout participe à l'ambiance qui est posée, et l'ambiance est cool. Voilà, je peux pas dire autrement que ça. L'ambiance est cool et c'est un jeu qui est léché, qui est bien pensé, qui est vraiment réussi. Peut-être que justement, vu que c'est le troisième épisode des Persona modernes, parce qu'on met un peu à part le 1 et le 2 qui, je crois, sont un petit peu différents, la recette commence à marcher du feu de Dieu, hein, comme on dit, pour prendre des expressions un peu pourries. Persona 5, il est sorti sur PS3, sur PS4, et du coup c'est pas tant une question de moteur graphique ou de performance technique, plus que vraiment de direction artistique qui est vraiment précise et fouillée. Pareil pour le design des monstres, moi je connaissais pas du tout la série, du coup j'ai pas l'habitude, mais apparemment il y a plein de démons qui sont repris de SMT, de Persona, il y a un bestiaire familier pour les fans, on va dire, avec notamment Jack Frost, par exemple, qui est la mascotte d'Atlus, le studio qui est un petit bonhomme de neige rigolo, qui était là dès le tout premier jeu, dès le tout premier Megami Tensei sur Nintendo, sur Famicom, sur NES. Du coup, il y a un bestiaire qui est cool, qui est du coup issu du syncrétisme religieux, de légendes urbaines. Il y a beaucoup, beaucoup de démons, c'est un peu comme les Pokémon, hein, il y en a beaucoup maintenant. Et ouais, même le design du coup de ces démons et le trait de Soejima, qui du coup a sûrement dû redesigner des monstres faits par Kaneko, bah, fait que tout ça est cohérent et donne une atmosphère et une ambiance au jeu qu'on ne peut que, en tout cas, on va dire, on peut que respecter le délire parce qu'il est cohérent de bout en bout et qu'il est bien fait, je me répète, je crois. Mais du coup, visuellement, ça claque. Effectivement, ça claque. Et en gros, le délire, c'est quoi ? Puisqu'il est, j'arrête pas de dire qu'il est cohérent et qu'il est fouillé et qu'il est bout en bout, le délire, c'est Arsène Lupin, en gros. Il y a un petit côté jazzy. Un petit côté jazzy pop, hein, voilà. Alors vraiment, là, c'est un petit côté, un petit délire, jazzy pop. Je vous promets, on écoute ça tout de suite et on va vraiment, vraiment en profiter à fond. J'ai mis de Philippe Manœuvre au cas où c'est mal fait. Allez. So you know. À faire, soyons fous pour rendre la musique maintenant, puisque j'ai lâché les mots. La BO est cool. Voilà. Vous savez très bien que je n'y connais rien en musique, mais c'est stylé. Et là encore, en fait, toute la direction artistique, si on prend en compte du coup pas seulement l'aspect visuel, mais l'aspect artistique en entier, aujourd'hui je suis très éloquent, j'ai l'impression. La musique va dans ce délire-là de. En gros, puisque j'ai dit déjà qu'on incarnait des sortes de rebelles, de voleurs, pensez à Arsène Lupin. Remixé évidemment de façon très pop. Putain, j'en peux plus, je suis insupportable. J'espère que ça vous fait un peu rire parce que sinon ça va être très chiant. Et du coup, la BO, elle est jazzy et elle est cool. Et pareil, là c'est cohérent, c'est fouillé et c'est jusqu'au boutiste. Et ça fait plaisir. Et vraiment, la BO est super. On peut peut-être regretter qu'il n'y ait qu'une seule chanson pour les combats, donc on l'entend beaucoup, beaucoup de fois. Mais elle est bien, donc ça passe. Bien sûr, le compositeur n'est autre que Shoji Meguro qui, avec. Ashino et Soejima est là aussi une des têtes d'affiche de la série Persona parce qu'il donne du coup depuis le début une ambiance musicale assez particulière, vraiment là pour le coup pop au sens de style musical qui ici tire un peu sur le jazz, mais du coup il y a un délire assumé, bah, on est des lycéens, on écoute de la musique un peu de lycéen quoi. Jusque dans les combats, jusque dans l'exploration, il y a toujours une sorte de cohérence et de couche musicale qui diffère vachement des JRPG et qui nous ancre dans le côté très contemporain et citadin de Persona. Je pense vraiment que depuis son arrivée dans Persona, ils ont toujours l'équipe d'Atlus dédiée à Persona, ils ont toujours pu compter sur Meguro. Comptez Meguro. Et oui, j'ai fait toute cette phrase pour faire cette blague. Merci. Par quoi on commence ? Commençons par le système qui différencie Persona de tous les autres membres de la famille des mégathènes, à savoir du coup le système de vie lycéenne, le simulateur de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? En gros, outre les moments un peu spéciaux, vous vous réveillez, vous allez en cours le matin, l'après-midi, vous avez parfois des petites questions de prof auxquelles il faut répondre, de culture générale, ça peut être des trucs de maths, d'histoire, de littérature, de japonais, enfin voilà, vous essayez. Sachant que si vous répondez bien, vous allez par exemple devenir plus intelligent, parce que vous avez 5 caractéristiques de votre personnage, qui ne sont pas des caractéristiques qui entrent en compte pour la partie combat, mais qui entrent en compte pour la partie sociale. Il y a la knowledge, donc je sais pas, la connaissance, la culture, le charme, la bravoure, la gentillesse, la dextérité. Je crois que j'ai fait le tour. Et en gros, vous pouvez du coup, une fois que vous avez été en cours comme un bon petit lycéen, décider de ce que vous allez faire ensuite. Aller au cinéma, aller boire un verre avec quelqu'un, aller lire un livre, réviser, aller faire des petites parties de jeux vidéo, regarder un DVD, plein de trucs quoi. Et selon ce que vous allez faire, ça va du coup changer votre personnage et les caractéristiques susnommées. Et vous devez du coup à la fois gérer l'évolution de votre personnage, mais aussi et surtout l'évolution de vos relations sociales avec vos amis, avec vos camarades, etc., etc. Et du coup, ça devient très vite un jeu de gestion emploi du temps. C'est pour ça que j'ai dit au début, sortez vos agendas. Parce que vous n'avez pas un temps illimité, et que, comme le dit le proverbe, je ne sais pas d'où vient cette phrase, je l'ai entendu un gamin dire ça il y a quelques jours, choisir c'est renoncer. Et effectivement, là ça marche bien pour Persona. Je viens d'aller voir, ça vient de André Gide apparemment. C'était choisir, c'était renoncer, à blablabla, et ça a été peut-être transformé dans l'usage courant en choisir, c'est renoncer. Donc big up à toi André. En tout cas dans Persona, cette phrase d'André Gide marche très bien, parce que bah, si on décide après les cours le vendredi 29 mars d'aller au cinéma et ensuite d'aller jouer aux jeux vidéo, on n'aura pas pu passer du temps avec ses amis et du coup avoir une relation sociale plus développée avec eux, etc., etc. Donc en fait, quoi qu'on fasse, on va devoir accepter le fait qu'on n'aura pas fait autre chose à la place. Et du coup, ce jeu, il est flippant. il est flippant parce que ça devient un jeu d'optimisation d'emploi du temps, mais vraiment extrêmement précis. On a en gros que 2 activités possibles par jour après les cours, parce que la journée est divisée en différentes périodes, en gros soirée et soir, et on ne peut pas faire des trucs la nuit, sinon on est fatigué. Et sachant que quand on fait des aventures avec nos amis, et on en reparlera après, qu'on va chasser des démons et tout, bah ça nous flingue la journée, parce qu'après on est fatigué, on doit aller dormir, on peut pas chasser les démons et après aller au cinéma par exemple, c'est impossible. Tu ne m'as pas laissé le temps. Et du coup, ouais, c'est un jeu stressant. Vraiment, on est écrasé par la structure des journées, par le temps qui passe tout le temps. Il y a beaucoup de temps de chargement qui sont avec des petites illustrations jolies. Il y a plein de moments où l'histoire fait qu'on ne peut pas faire les activités qu'on veut faire. Plein de moments, j'ai loué un DVD pour le regarder le soir, parce que quand on regarde des films, ça augmente aussi certaines caractéristiques. On regarde un film d'action, on est plus courageux. On regarde un film romantique, on est plus gentil. Ce qui est assez intéressant de reconnaître au sein d'une œuvre artistique, la capacité des œuvres artistiques à modifier notre vision du monde et nos ressentis et la façon dont on se comporte, c'est un message intéressant. Et du coup, j'imagine que ça dit... Enfin, on pourrait se demander, en pratiquant et en ressentant ça à travers le personnage dans le jeu, ce que Persona 5 est censé nous faire gagner une fois qu'on l'a fini. Et on pourra en reparler de cette question-là. Mais en tout cas, c'est stressant. Et ça fait vraiment du temps... C'est un jeu de gestion de ressources. Tout comme dans des jeux de stratégie ou de management, on gère, je sais pas moi, du bois, de l'argent, des unités, etc. Ou la mana et les objets dans les JRPG classiques et dans les moments de Persona où on explore des donjons, où on gère ces ressources-là. Mais quand on est dans notre vie quotidienne d'étudiant lambda, on gère notre temps. C'est intéressant parce que bah, c'est vrai qu'on gère tous notre temps, qu'on a peur de le perdre, qu'on essaye d'en gagner. Mais c'est aussi flippant parce que, et je pense pas que ce soit pensé, mais ça nous met vraiment face au stress constant qu'on ressent dans la façon d'organiser nos journées, dans tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on aimerait faire. Et j'ai pas l'impression que ce soit une volonté du jeu de nous faire ressentir ce stress. C'est un peu plaisant, hein, on va pas se mentir. À la fin, on se prend un peu au jeu, parce que le jeu en même temps dure 90 heures, donc je ne sais pas si c'est vraiment, on va dire, le jeu qui devient bon, ou nous qui nous adaptons et qui développons un syndrome de Stockholm, pour le dire de façon très extrême. Mais ça devient plaisant, ça devient intéressant, on rentre un peu dans le truc et on finit par, par apprécier, mener sa petite vie quotidienne, routinière, etc. Il y a une sorte de... Au bout d'un moment, cette pression qu'on ressent finit par un peu se diluer, on s'y fait, mais... Je trouve que ce que ça dit de nos vies n'est pas forcément vraiment pensé et un peu triste. Et ça se retrouve aussi dans la façon dont on gère les relations sociales avec les gens, parce que du coup, si on va boire un café avec machin ou machine, au bout d'un moment, on devient de plus en plus proche d'eux ou d'elles, et c'est représenté par des sortes de niveaux de relations sociales. On est au niveau 1, on va boire un café, on est au niveau 2, on va boire 3-4 cafés, manger des chips, aller faire une rando, on va devenir niveau 3-4-5. Chaque niveau atteint nous offre des avantages de gameplay. Par exemple, si on devient très pote avec Ryuji, un des personnages, ben on pourra, il sera plus fort en combat, ce qui pourra, par exemple, nous protéger si on subit une attaque vraiment grave. Si on est très pote avec un tel ou un tel, on aura d'autres avantages, parfois des avantages sociaux liés à la vie quotidienne, parfois des avantages liés à l'exploration et au combat en mode JRPG classique, ça dépend des personnages. Mais ça montre aussi quelque part une sorte de capitalisation, ou en tout cas de gestion de l'amitié comme une ressource. On gagne de plus en plus de choses au fur et à mesure qu'on se rapproche des gens avec qui on traîne, et ils nous apportent des choses à nous, des avantages, et il faut gérer aussi les relations humaines comme une partie de l'emploi du temps et comme des tâches quotidiennes, parce qu'il faut les entretenir, et parce que si on n'arrête pas de mettre des vents aux gens, et eh bien pareil, on finira par plus être copains. Et là aussi, c'est une réalité, on va dire, de fait, que effectivement, il faut prendre en compte les relations qu'on a sociales et essayer de trouver du temps pour le passer avec les gens qu'on aime. Mais là, pareil, je ne sais pas si c'est un commentaire sur la façon dont on gère notre temps dans la société dans laquelle on vit, ou juste une façon de rendre ça, de ludifier ça, sans le commenter. Et là, ça me gênerait plus. Donc c'est très étrange. Cette structure de jeu, et j'arrive au point qui me déstabilise le plus et qui fait que je voulais pas y jouer, c'est le côté romance. Moi, je suis sorti avec personne dans ce jeu, mais on a le choix, on peut sortir avec qui on veut. Alors attention, qui on veut, seulement si c'est une femme bien sûr, parce qu'on incarne un homme. Le jeu est très très hétéronormé, il est même homophobe à certains moments où il y a des caricatures d'homosexuels, des caricatures très japonaises, gros musclés qui en gros te courent après pour te violer, hein. Ce qui est vraiment rude, surtout pour un jeu qui sort en 2016 et qui se veut être une critique du Japon contemporain. Et du coup, en fait, le seul personnage de l'entourage du héros qu'on incarne, qui est silencieux, on peut choisir, il y a plein d'options de dialogue, mais lui ne dit jamais rien, et c'est nous qui choisissons ce qu'il dit. Le seul personnage avec qui j'aurais aimé que ce héros sorte, c'est le meilleur ami masculin qu'on a depuis le début du jeu. C'est le premier ami qu'on se fait, parce qu'en gros, on arrive à Tokyo, on connaît personne, et vite, on traîne avec ce gars. Qui sortent ensemble, ces deux garçons, ça aurait été logique pour moi vu le développement du personnage, mais on ne peut pas parce que c'est un homme. Et après, les autres personnages féminins, y a tout un panel de filles qu'on peut choisir, certaines qui sont plus jeunes que nous, certaines qui sont bien plus vieilles que nous, qui sont notre prof, qui sont des personnages féminins beaucoup plus vieilles, et c'est vraiment une sorte de fantasme, on va dire. Quel style de meuf tu préfères, quelle est vraiment la situation qui te semble la plus intéressante, coucher avec ta prof, ou sortir avec ta prof, avec un médecin, avec le côté un peu infirmière, blablabla, enfin, c'est dégueulasse quoi, en tout cas c'est creepy, c'est ce que les Japonais, j'imagine, appelleraient du fanservice, parce que le fanservice au Japon, dans les animés, ça implique souvent de voir tel perso en petite tenue ou en pose un peu suggestive. Et là, du coup, c'est vraiment ce truc-là des animés repris et appliqué. Mais moi, je suis pas là pour ça, ça m'intéresse pas. Et je trouve que, même sans du coup être sorti avec personne, j'ai pu lier des amitiés profondes avec les personnages, avoir accès à leur histoire et à ce que le jeu voulait dire de ces personnages, sans rajouter une scène un peu nulle de « Ah, on s'est embrassé » ou alors l'écran passe au noir et il y a juste écrit sur l'écran qu'on a passé du temps ensemble, blablabla, et comme ça on peut imaginer ce qu'on veut. Mais c'est très dérangeant le fait qu'on soit un tombeur, qu'on puisse choisir de sortir avec qui on veut, et cette sorte de fantasme, d'usine à fantasme qu'on peut choisir, et c'est bizarre quoi. C'est pas du tout mon délire. Et si c'est le vôtre, il n'y a pas de souci, tant mieux, c'est très bien. Mais moi, je trouve ça bizarre la façon dont c'est fait, le côté hétéronormé, vraiment le côté comme si tu choisissais la situation qui te plaisait le plus et que du coup t'étais vraiment mis dans une situation de buffet à volonté. Sauf que là, c'est des personnes, quoi. Ou des situations fantasmées. Après, bah, c'est un jeu, hein, c'est pas grave. Et surtout que les Japonais, je crois, sont vachement dans cette idée de. Encore une fois, de ce que j'en comprends de très loin, je ne suis pas du tout expert. De ce que j'en comprends vraiment dans ce côté de catharsis, au sens bah, laisser libre cours à vos fantasmes dans les jeux, les fictions, pour ne pas qu'ils ressortent dans la réalité. Presque, finalement, le sens de catharsis, presque grec au sens pur, où la tragédie était souvent utilisée comme un outil de contrôle politique des citoyens. Une sorte de vraiment, si les gens vont voir des tragédies grecques, les Grecs, hein, du coup, les Athéniens, bah, au moins ils feront pas chier et il y aura un ordre social qui sera respecté parce qu'ils auront pu laisser libre cours à leurs passions les plus violentes en allant au théâtre. Et j'ai l'impression de ce que j'en sais, de ce que j'en comprends, je peux me tromper, qu'il y a un peu ce délire-là aussi au Japon avec, du coup, notamment, bah, je sais pas, les jeux érotiques, les dating sims, les hentai, etc., etc., qui sont beaucoup plus acceptés et prégnants dans la vie culturelle parce que c'est censé être un échappatoire ou un exutoire. Et du coup, ce côté-là, peut-être que c'est moi qui ne peux pas me mettre dans le contexte où c'est fait. Mais il y a quand même un côté un peu déstabilisant, je trouve, au fait de vouloir faire un jeu qui rend les relations sociales primordiales, importantes, mais qui en même temps se sert de ces relations sociales comme un tremplin pour des fantasmes. Parce que du coup, est-ce qu'on doit s'intéresser au personnage et aux liens qu'on a avec ce personnage d'un point de vue humain ou d'un point de vue uniquement de fantasme ou d'actualisation d'envie? Tout comme ce que je disais avant, est-ce que la structure et l'impact et le poids de l'emploi du temps et le fait que les relations interpersonnelles soient des moyens de gagner des avantages et soient des tâches qu'on doit effectuer, est-ce que c'est un commentaire ou est-ce que c'est uniquement un truc qui n'est pas réfléchi? Et vu le contexte du jeu, vu l'importance de ces thèmes dans le jeu et de ces mécaniques dans la série Persona, qui, parce qu'elles sont là depuis le 3, du coup, je crois, bah, on peut pas les foutre comme ça dans trois jeux et en faire même le pilier de gameplay du jeu sans y réfléchir et sans que ça veuille dire quelque chose. Et j'ai l'impression que vu que c'est pas vraiment réfléchi ou commenté ou pensé, bah du coup c'est problématique. Si ça disait quelque chose volontairement, le fait qu'on n'ait pas beaucoup le temps de faire grand-chose, que le temps soit une ressource, le fait que, bah oui, traîner avec les gens, ça peut être vu comme un moyen de gagner des choses. Ou alors que, oui, quand t'es un. Je sais pas, un mec hétéro, cis, tu puisses avoir une sorte de buffet à volonté ou que le monde soit rempli de possibilités. Tout ça n'est jamais vraiment pensé, j'ai l'impression, de la part des créateurs du jeu. Et du coup, ça pose beaucoup de questions et c'est beaucoup plus dérangeant que ce que le jeu aimerait bien que ce soit. Ma phrase n'est peut-être pas très claire, mais je crois que vous avez compris. Et même mes sentiments sont peut-être pas très clairs, mais je crois que vous saisissez l'essentiel. Je trouve quand même un côté assez gênant à tout ça. J'ai pas pris de notes. Là, je parle comme FF15, un peu mon ressenti à chaud. J'espère que ce n'est pas trop brouillon. Mais vraiment bizarre. Ce côté-là, je savais que j'y étais un peu réticent. J'ai plus apprécié que ce que je pensais. Le fait de, bah, quelque part, je joue au JRPG, hein, j'aime bien voir les chiffres et les stats qui montent, du coup, le fait qu'on me dise, ah ça y est, j'ai atteint le max en connaissances, du coup j'ai des super notes à l'école et je peux parler à telle personne parce qu'elle aime parler que aux intellos, bah, j'étais content, c'est-à-dire que j'avais réussi ma progression et que les stats et les jauges avaient augmenté, j'étais content évidemment, ça marche un petit peu. Et puis il y a un côté très sympa parce que du coup cette simulation de vie urbaine implique qu'on soit dans Tokyo et qu'on puisse se balader où on veut et quelque part avoir une sorte de carte postale de la vie japonaise d'un lycéen. Et en tant que mec qui consomme des JRPG depuis très longtemps et qui forcément a une sorte d'intérêt assez grand pour la culture japonaise, le fait d'y être immergé ou d'avoir l'impression d'y être immergé pendant 90 heures en vivant la vie d'un lycéen lambda, forcément que c'est un ça pour le coup c'est un fantasme qui est voulu et qui est pensé par le jeu et qui me parle. Et qui me semble pas gênant, ou alors qui l'est, si, mais pour d'autres façons, on va y revenir après. En fait, si c'est tout à fait gênant. Mais en tout cas, j'ai apprécié cette proposition, plus que les autres dont j'ai parlé juste avant. Mais, on va faire une petite pause déjà, parce que j'ai parlé beaucoup là. Mais on n'a pas fini de parler du gameplay, on n'a parlé que d'un côté du gameplay. Mais on revient juste après ça. Thank you. hop, du coup, on reprend, parce que quand on n'est pas au lycée et qu'on va pas traîner avec ses potes, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le cœur des gens. Et oui, Persona, c'est un nom qui vient d'un concept jungien de Carl Gustav Jung, un psychanalyste qui était pote avec Freud et après plus pote avec Freud, du début 20e. Le persona, grosso modo, c'est censé être un peu le masque social, la personnalité qu'on renvoie au monde et qui du coup sert à cacher notre moi profond. Si je résume très grosso modo, mais aussi grosso modo que le jeu le fait. Et du coup, dans le jeu, les personas, ce sont un peu plus qu'un masque social, c'est la représentation, c'est une sorte de pouvoir, c'est une sorte de mec magique qui est d'un autre côté et qui nous donne des pouvoirs spéciaux, qui fait qu'on peut combattre, parce qu'on a un persona. Imaginez par exemple le héros Joker, rien à voir avec le jeu d'Orange, il a le persona Arsène, qui du coup une sorte de Arsène Lupin, quoi, hein, c'est son persona. Les personas, en fait, dans ce jeu, se révèlent aux personnages une fois qu'ils ont accepté de se rebeller contre l'ordre établi. Et là, bim, ils peuvent passer un contrat avec leur persona qui était à l'intérieur d'eux depuis toujours, et ils se manifestent, et hop, ils ont des pouvoirs magiques. Et une fois qu'on a un persona, on peut rentrer dans le métaverse. C'est quoi le métaverse? C'est en gros un univers parallèle au nôtre, qui est une sorte de manifestation des désirs inconscients des personnes. Les personnes qui sont vraiment méchantes, ou en tout cas qui ont vraiment des désirs très forts et un peu bizarres, un peu pervers, déviants, vont manifester leurs désirs sous une forme de palais. Par exemple, si vous êtes un boulanger vraiment mesquin et méchant, vous allez voir la boulangerie, votre commerce, comme, je ne sais pas moi... une sorte de château dont vous êtes le chef. D'ailleurs, c'est le premier méchant et le premier palais dans lequel on va dans Persona. C'est notre école à nous, notre lycée, qui, aux yeux d'un prof qui abuse sexuellement des élèves, est un château dont il est le roi. Du coup, on rentre dans la manifestation, dans l'inconscient de notre prof qui voit l'école comme un château. Du coup, le donjon qu'on parcourt pour ce truc-là, c'est un château, mais qui est en fait l'école. Mais on est dans le métaverse, et dans le métaverse, l'école est un château. J'espère que vous avez compris. Et le but des Phantom Thieves, le groupe qu'on incarne, c'est de parcourir ces donjons et de voler un trésor. Du coup, on retrouve un peu le côté Arsène Lupin, parce qu'on est censé être des cambrioleurs, on va faire un casse, quoi, en gros. On va parcourir le donjon, voler le trésor, et une fois qu'on vole le trésor, on peut, du coup, rendre la personne gentille. Du coup, ça, c'est la seconde partie du gameplay de Persona, du coup, gameplay très classique de JRPG, exploration, combat au tour par tour. Et cette partie-là, on va le dire tout de suite, elle est super. Vraiment, là, le délire jusqu'au boutiste de la direction artistique, de la musique, etc., il est respecté même dans l'exploration des donjons. Parce que vu qu'on est en train de faire un casse, on doit s'infiltrer, il y a des petites mécaniques d'infiltration très légères, mais qui marchent bien. Et pour comparer ça à Chrono Trigger, le dernier jeu dont on a parlé ensemble, je vous avais dit que dans Chrono Trigger, en gros, les rencontres avec les ennemis étaient scriptées. Ce qui rendait un peu les donjons comme autant d'espaces hostiles dans lesquels on s'infiltrait, et qui, quelque part, était préparé à notre venue, parce que chaque rencontre, du coup, était bien pensée par les designers. Là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est dans un casse, du coup, on doit un peu se cacher, et dans les JRPG, les rencontres et les combats aléatoires, par exemple au cours de notre voyage, sont un peu des métaphores des aléas de l'aventure. On est d'accord. Si vous êtes dans Final Fantasy VII, sur la carte du monde, ou dans Tales of Vesperia, on en a parlé aussi, vous vous baladez, il y a des monstres. C'est pour représenter de façon symbolique, métaphorique, le fait que le voyage ne se passe pas comme prévu et qu'il est semé d'embûches. Dans Persona 5, ce qui est fou, c'est qu'avec l'infiltration et avec le fait que du coup ça prenne en compte, on va dire, le niveau d'attention des ennemis, est-ce qu'ils sont vraiment au courant de votre venue ou pas, et le fait qu'on doive se cacher, qu'on puisse les prendre par surprise, et que même les ennemis, en fait, soient représentés d'une façon qui change d'un donjon à l'autre, parce que, évidemment, la façon dont le méchant voit le monde autour de lui dans son inconscient va influer sur la façon dont les monstres sont représentés. Dans le château, ça va être des chevaliers, dans un casino, plus tard, ça va être du coup des serveurs, des serveuses ou des vigiles. Ça fait que du coup, on n'est plus face à une métaphore du voyage et des embûches comme dans les autres JRPG, ni comme dans la représentation beaucoup plus directe et beaucoup moins symbolique de Chrono Trigger, où là il y a des sortes d'embuscades prévues dans l'organisation du donjon. Là on est du coup dans le délire un peu jusqu'au boutiste du casse, qui fait qu'on doit s'infiltrer, qu'il y a du coup beaucoup d'actions contextuelles à réaliser, se cacher derrière un mur, un autre mur, jusqu'à ce qu'on puisse attaquer l'ennemi par derrière. Et finalement, il n'y a plus de métaphore. On est dans l'immédiateté du casse et de l'infiltration cambriolage, contrairement au côté beaucoup plus métaphorique des combats aléatoires des JRPG plus classiques. Donc ça, c'est vachement intéressant, parce que ça montre à quel point, pour le coup, je critiquais juste avant le fait que certaines choses dans le système, autant de vie quotidienne que de structure, ne soient pas pensées. Là, il y a quand même des machins qui sont cohérents de bout en bout, et l'exploration résonne vachement bien avec le thème du jeu. On rajoute à ça le visuel, le design des personnages, qui est excellent et qui joue sur le côté un peu, sur le côté cambriolage, etc. Plus la musique un peu jazzy et tout, enfin, c'est un délire, et c'est vachement bien fait, et c'est super. Surtout que, une fois qu'on rentre dans un combat, bah, le système de combat, il est génial. C'est du tour par tour. Il n'y a pas de temps réel, il n'y a même pas d'ATB ou de jauge qui se remplit pour simuler du temps réel. C'est vraiment du tour par tour. C'est un système de combat, je crois, qui vient de Shin Megami Tensei 3 et qui est repris dans tous les Persona aussi. Et du coup, aussi dans les autres Shin Megami Tensei qui ont suivi. C'est le press turn. En gros, ça joue sur le pierre-feuille-ciseau élémentaire classique, mais à donf. Il faut vraiment taper les faiblesses élémentaires des ennemis, parce que si on le fait, on a un tour en plus. Et on peut le faire jusqu'à 2 ou 3 fois. Du coup, on peut, si on s'en sort bien, avoir, on va dire, 2 ou 3 tours en plus, si on connaît bien les faiblesses des ennemis. Donc, faut apprendre à les connaître, faut s'en souvenir, faut essayer de pas faire n'importe quoi. Et le problème, c'est que c'est pareil pour eux. S'ils tapent notre faiblesse élémentaire, eh bien, bim, ils ont 2-3 tours de plus. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça fait que des combats peuvent très vite tourner à notre avantage ou à notre désavantage. Ça peut très vite se retourner, en fait. Soit c'est hyper facile, on roule dessus parce qu'on connaît les faiblesses, soit c'est l'inverse et on se fait tuer très rapidement. Le jeu est assez dur. Là aussi, le côté guerre d'attrition, parce qu'en gros, il n'y a pas de façon de gagner des points de magie. Ce qui fait que plus on avance, plus on se... Il y a même un bouton, ça c'est super, pour soigner tout le monde d'un coup. Juste appuyer sur carré, tout le monde se soigne. C'est génial. Niveau qualité de vie, très très bien pensé. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, t'as plus d'objets pour pour récupérer tes points de magie. Et du coup, l'exploration, vraiment, on retrouve ce côté JRPG à l'ancienne, de guerre d'attrition, de gestion des ressources. Les donjons sont très longs. On peut y revenir quand on veut. Quelque part, en fait, souvent, comment ça se passe, c'est qu'on a 20 jours pour faire changer pour faire changer le méchant d'avis, quoi, lui voler son cœur en gros, et le transformer en gentil. Du coup, on peut explorer ce donjon très très long sur 2, 3, 4 jours. Après ces 2, 3, 4 jours, on ne pourra pas aller boire un café avec Josiane et regarder des DVD. Mais bon, c'est encore une fois, vous voyez que le système et l'exploration sont imbriqués dans le système plus global de gestion de la vie quotidienne. Là, pareil, c'est très cohérent, très bien pensé. Et le système de combat, encore une fois, il est génial. C'est vraiment hyper kiffant de faire attention aux faiblesses élémentaires, d'essayer de les deviner, du coup de faire plein de petits tests, ok, il est résistant à ça, pas résistant à ça, etc. Et ouais, le côté, j'ai 2-3 actions en plus, quand on arrive à toucher les faiblesses élémentaires de tous les ennemis à l'écran, ils sont tous KO, et du coup on fait une attaque hyper puissante de tous les coéquipiers, et pareil, là c'est le graphisme qui rentre à nouveau en compte, parce qu'elle est super léchée, très bien designée. Non, si vous connaissez pas du tout Persona 5, allez regarder, je sais pas, un combat en ligne sur YouTube, et vous verrez, c'est stylé, quoi. Comme je disais au départ tout à l'heure, même l'écran d'expérience, il est stylé. Donc non, vraiment, là, on retrouve cette cohérence incroyable, autant dans l'exploration que dans les combats, parce que du coup, je pense que c'est assez malin, l'histoire de press turn. Bon, c'est un super système de combat, et puis le fait que les combats puissent tourner très vite à notre avantage ou pas, bah c'est quelque part assez cohérent avec l'idée d'infiltration, de cambriolage, de bah soit tout se passe bien, soit si ça se passe mal, ça se passe mal très vite, et c'est très vite fini, et il faut recommencer. Et c'est ouf d'avoir un truc aussi cohérent avec autant de zones non pensées, tous les critiques que j'ai pu faire précédemment. C'est presque ça qui fait qu'on peut être aussi exigeant avec ce jeu, parce qu'il est extrêmement peaufiné sur plein de points. Du coup, les points qui ne le sont pas, on peut pas juste dire « Ah, c'est pas grave, ils ont pas fait attention ». Vu à quel point tout le reste est cohérent et résonne, et à quel point il y a d'écho entre toutes les parties du jeu, entre la musique, les graphismes, le système de combat, le système de simulation de vie et tout et tout. Et ouais, on peut pas tout avoir. Soit on pense tout jusqu'au bout et on est trop fort, soit on pense pas tout et à ce compte-là, on accepte toutes les critiques assez véhémentes qu'on peut se reprendre, surtout sur des points assez importants, surtout vu le propos du jeu. Et on arrive à ça maintenant. pas mal dû expliquer des éléments scénaristiques du jeu, ce qui montre à quel point il y a un ensemble cohérent de toutes les parties entre elles. Mais bon, si je résume du coup, on est une bande de lycéens, nous on est Joker, mais on n'est pas un mec en blanc avec des cheveux verts, et il n'y a pas de Batman, juste c'est notre nom de code, Joker. On doit du coup changer le cœur des méchants adultes en rentrant dans leur inconscient. Et on va être aidé par d'autres camarades lycéens qui vont rejoindre notre bande de Phantom Thieves. Si je me souviens bien, les créateurs du jeu ont voulu s'inspirer de la littérature picaresque, qui est une littérature, latine, espagnole, sud-américaine, etc., qui en gros met en scène des personnages souvent de basse extraction, assez miséreux, qui du coup vont s'opposer aux valeurs des honnêtes gens, de la classe moyenne, etc., etc., pour faire un peu une satire de la société. Ce jeu s'inspire de ça. Il a ce désir aussi picaresque du coup de remettre en question la société japonaise contemporaine, puisque le jeu se passe en 2010X, du coup on ne sait pas l'année, mais c'est dans cette décennie-là, et se passe à Tokyo, et du coup a vraiment une volonté de réforme sociale. Les lycéens commencent par s'opposer à un de leurs profs hyper craignos, puis ensuite à un artiste réputé, ensuite à un homme politique, à un mafieux, etc., etc. Vraiment, il y a vraiment une volonté de réforme sociale qui va aller jusqu'à un politicien à la fin qui est censé être le nouveau premier ministre, poste le plus haut dans le gouvernement japonais. Donc du coup, il y a sous ce propos-là, on pourrait parler du coup vraiment d'un jeu politique qui se veut politique. D'où ma question de base du coup. Est-ce que Persona 5 est vraiment un jeu si politique que ça ? À écouter le jeu, oui. Puisque du coup, on s'oppose aux adultes, à leurs désirs vraiment déviants, et on veut réformer et changer la société. On va aussi d'ailleurs à la fin et au cours du jeu pouvoir rentrer dans l'inconscient collectif, parce qu'en gros, les gens qui ne sont pas hyper méchants, qui n'ont pas un palais qui centralise leurs désirs déviants, il y a quand même un inconscient du tout venant, de tout le monde, dans lequel on peut rentrer et on peut s'attaquer à des gens moins méchants, mais méchants quand même, et changer du coup l'inconscient collectif, ou même à la fin, c'est ça la fin du jeu, on change l'inconscient collectif de tout le monde, en fait. Encore une fois, concept jungien, l'inconscient collectif, du coup, ça reprend pas mal de ce délire psychanalytique. Ok, super, on a un jeu léché, pop, qui reprend un thème de la littérature espagnole assez ancien pour le remettre au goût du jour. On est trop content, c'est un délire pop-punk, voilà, c'est génial. Un peu. Mais est-ce que vraiment c'est un jeu politique ? Beaucoup de gens ont pu s'extasier devant ça à la sortie du jeu. J'ai déjà montré les limites de ça avec tout l'impensé qu'il pouvait y avoir dans la représentation de certains personnages, du coup, notamment homosexuels, quoi. Par contre, c'est même pas la première fois qu'Atlus est homophobe, voire transphobe dans les Persona. J'ai pas fait le 3 ou le 4, mais j'ai pu entendre parler de scènes similaires dans les autres jeux, donc ils sont pas à leur coup d'essai à ce niveau-là. Et justement, l'intérêt du jeu, c'est qu'on est censé être, en tant que voleurs fantômes, Phantom Thieves, des laissés-pour-compte, des marginaux. Mais il y a... Et ça, c'est la critique américaine qui l'a relevé assez rapidement, je crois. Il n'y a aucun personnage queer dans le jeu, qui sont pourtant aujourd'hui les personnes LGBT, Q+, les personnes les plus marginalisées. Il n'y a aucune personne racisée non plus, hein, évidemment. Du coup, on est des personnes marginales parce que le héros Joker qu'on incarne a été accusé à tort d'un crime. Et effectivement, c'est vrai, quand on rentre au début, on est le nouvel élève qui arrive et que tout le monde déteste, ou en tout cas que tout le monde craint parce qu'on est censé avoir un casier judiciaire, ce qui au Japon forcément est très mal vu, au Japon et ailleurs d'ailleurs. Mais après, l'autre, Ryuji, notre meilleur ami, dont je parlais pour dire que ça aurait été une relation amoureuse intéressante si on avait pu y aller jusqu'au bout, c'est un peu le voyou de service qui est pas bon à l'école et qui fait le ouf. Mais les autres personnages ont pas vraiment un statut social si défavorisé que ça. On finit par avoir dans notre équipe une riche héritière, par avoir une première de classe, sœur d'une prostitutrice qui plus tard veut être flic. Enfin, en gros, ce sont des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans la société japonaise, mais qui ne sont pas socialement défavorisés ou marginalisés. Eux se sentent à l'écart, eux ne se reconnaissent pas. Et il y a un malaise individuel, mais pas social, sociétal, politique, quelque part. Du coup... C'est discutable, déjà, comme propos, en tant que tel. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir un malaise individuel, hein, évidemment, mais si on doit réfléchir à une réforme sociale, peut-être faut réfléchir du coup en termes sociaux et en termes de classe éventuellement, ou au moins en termes de position dans la société. Et du coup, cette position dans la société, elle n'est pas uniquement due au ressenti qu'on a par rapport aux autres à notre place dedans. On peut avoir un malaise, mais il faut aussi savoir d'où on parle économiquement, etc., socialement et tout. Et à ce compte-là, le jeu ne le fait jamais, quoi. Ce truc-là, le jeu ne le fait pas. Et préfère faire reposer la marginalité sur des ressentis individuels plutôt que sur des données sociales. Et déjà, le propos politique s'écroule un petit peu, hein. On va pas se mentir. D'autant plus que je spoil pas vraiment la fin, mais à la fin, je donne une grande ligne qui ne spoile pas les détails du scénario. À la fin, les Phantom Thieves, notre groupe, finit par... Bah en fait, ils ont fini. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils laissent la main aux adultes. Parce que tout le long du jeu, les lycéens qu'on incarne s'en prennent aux adultes en mode bah, « c'est vraiment des incompétents, ils sont horribles, on se fait tous bolosser par les adultes c'est des méchants et tout ». Mais à la fin, on arrive à trouver un ou deux adultes sympas et du coup, on dit « bon, on vous fait confiance, vous allez redresser le système ». Et hop, nous, on part en road trip. C'est la fin. Bah d'accord. Voilà l'ambition politique du jeu. On a fait notre petite crise d'ado, on va pouvoir finalement passer à autre chose et vivre notre vie. Donc, est-ce que Persona 5 est un jeu politique ? Bah non. Bah non, pas du tout. Voilà la réponse à la question. Le scénario, il est sympa en soi. L'intrigue, il y a des bons rebondissements. Si vous aimez les animés, si vous avez aimé genre Death Note et tout, parce que c'est quand même assez proche, je trouve, c'est super. Il y a même des scènes vraiment cool, on va dire, des scènes de fin assez stylées, quoi, niveau grandiloquence d'animé, quoi. Il y a des rebondissements que j'avais pas vu venir et qui sont bien. Il y a des personnages et des histoires qui sont attachantes, qui sont touchantes. Quelques histoires individuelles m'ont plu. Et vu que le jeu dure 80-100 heures, on a le temps de s'attacher aux personnages. Il y a beaucoup de dialogues qui se répètent souvent, hein, mais il y a quelques histoires ponctuelles qui sont assez touchantes. Du coup, ok, niveau scénar, on va dire, ça se tient, c'est très bien. Mais la portée politique du jeu, elle est nulle, quoi. Justement, là, le côté acidulé du jeu se retrouve jusque dans le propos. Et ça ne devient qu'un bonbon très agréable à manger, mais qui n'a aucune valeur nutritive en tant que telle, ou en tout cas, aucun propos profond, on va dire. Et c'est fou d'avoir un jeu aussi cohérent et aussi bien pensé qui prend les atours d'un propos politique pour ne rien dire à la fin. Ça, c'est incroyable quand même. Et là, j'imagine qu'on va me dire « Oui, mais Stavro, c'est un jeu japonais. Les Japonais, ils sont... » Non, les Japonais, ils sont rien du tout. On en arrive à la réponse à la question et un peu au propos que je voulais développer dans cet épisode et en parlant de ce jeu, en tout cas, ce qui m'est venu. Il est assez facile, en tant que Français qui apprécie les JRPG, d'avoir une vision très orientaliste du Japon. L'orientalisme, c'est un concept développé par un penseur américain, Edward Said, au XXe siècle. Alors, j'ai son livre sous la main, mais j'ai la flemme de vérifier la date, donc tant pis. Et je reparlerai sûrement plus précisément plus tard de cette notion d'orientalisme dans le JRPG. Déjà, rien dans le simple nom, JRPG, c'est le seul genre de jeu vidéo avec une nationalité ou en tout cas une origine géographique dans le genre du jeu. Mais du coup, en tout cas, on peut en... consommant, de notre point de vue français, plein d'animés, plein de mangas, plein de JRPG, avoir une vision un peu fantasmée du Japon. Et se dire, un peu comme le vieux mème d'Antoine Daniel, c'est normal en Russie, se dire c'est normal au Japon. Ah, les Japonais, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Là-bas, les problèmes sociaux, sociétaux, le droit justement des personnes LGBTQ ou des femmes et tout, il y a des codes qui sont différents, il faut les respecter. Bien sûr, il y a des codes qui sont différents, il faut les respecter. Ça ne veut pas dire que c'est un pays qui n'a aucun contexte politique, et le Japon, c'est pas Anime Land. En fait, au Japon, il y a des luttes sociales aussi. C'est un pays avec un système capitaliste, avec des gens qui sont pas d'accord, qui font une répression, qui font des manifestations, des gens qui sont emprisonnés, etc., etc. Y a des luttes sociales aussi au Japon, en fait. C'est un vrai pays, avec des vraies personnes qui luttent pour des choses. Et du coup, nous, on peut facilement, avec la représentation qui en est faite dans les œuvres culturelles japonaises, se dire que là-bas, c'est différent, on peut pas comprendre, ou en tout cas, juste là-bas, c'est différent, et du coup, presque se contenter de ce que nous donne Persona 5, parce que ah bah c'est déjà bien, il y a une sorte de rébellion qu'on n'a pas d'habitude dans les mangas et tout. Et encore, ça pourrait discuter, parce qu'il y a des œuvres, je crois, comme Onizuka, Great Teacher Onizuka, la GTO. Jamais lu ni vu, mais je crois que ça parle un peu de ça, d'un prof un peu voyou, un peu gueudin. Mais du coup, il y a déjà... On peut trouver, si on veut, des œuvres qui ne sont pas dans cette histoire d'acceptation du rôle que la société nous donne. C'est une société hyper capitaliste, le Japon, on peut au moins être sûr de ça, qui du coup implique un lourd poids sur les responsabilités individuelles. Je vais pas rentrer plus en détail parce que justement, j'ai pas envie de faire de la socio de bas étage, et c'est ce qu'on fait souvent avec le Japon parce qu'on a l'impression de connaître à force de consommer des œuvres qui viennent de là-bas, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, et on peut même avoir une vision très faussée, très fantasmée de ce qui s'y trame. Moi le premier, hein, c'est pour ça que j'essaie de faire attention, parce que je pense que pendant très longtemps j'étais, on va dire, coupable entre guillemets de ça, et d'avoir une vision bizarre, et de dire du coup, oui, mais c'est normal au Japon, quoi. Et en fait, non, c'est pas normal au Japon, pas plus qu'ici. Et du coup, c'est pas parce qu'il y a une sorte de soft power qui veut vendre une image du Japon lissée, où ce serait normal justement d'accepter certains codes ou certaines valeurs qui sont, on va dire, conservatrices, qu'on doit les accepter, qu'on doit dire ok, c'est normal. Parce que je crois qu'il y a même une sorte, il faudrait que je vérifie, et peut-être encore une fois je reparlerai aussi en même temps que l'orientalisme, un projet politique de l'État japonais de se servir des œuvres culturelles comme d'un moyen de soft power de transmettre une image du Japon qui soit cool. D'ailleurs, je crois que le mouvement s'appelle Cool Japan et a commencé au début des années 2000. Et du coup, il y a une sorte d'utilisation des œuvres culturelles pour justement que, aux yeux du monde, le Japon soit vu comme une société homogène, sans trop de problèmes, avec une sorte de particularisme inhérent à cet archipel qui ferait qu'on n'aurait pas autant d'attentes ou de remises en question à faire au niveau de l'organisation sociale, sociétale et des problèmes sociaux qui peuvent se poser là-bas. Et Persona 5 arrive avec ses gros sabots en prenant un thème littéraire assez ancien du picaresque et en prenant les atours et l'ambiance et les thèmes sans aller jusqu'au bout et sans vraiment remettre en question quoi que ce soit, et en nous vendant à la fin la même soupe que d'habitude, mais avec un petit côté rebelle, un petit côté pop-punk. Désolé pour les peu-peu-peu. Et c'est agaçant, quoi, en fait. C'est agaçant. Parce que du coup, quelque part, on devrait se contenter de ça. Alors que non, on peut aussi faire la révolution au Japon et attendre plus des œuvres japonaises, et sûrement qu'il y en a qui vont plus loin, mais qui ne sont pas mainstream et auxquels on a plus difficilement accès. Mais du coup, ça serait dommage de se limiter à ça et d'accepter ça et de se dire c'est normal au Japon, même si on y est incité par beaucoup d'œuvres et par notre distance vis-à-vis de cette société. Mais voilà, c'est ça le propos, je pense. Persona 5 n'est pas un jeu politique, en tout cas, si, pardon. C'est un jeu politique parce que tous les jeux le sont, parce qu'ils viennent d'un certain contexte social, mais ce n'est pas un jeu aussi politique qu'il aimerait bien le faire voir, en tout cas pas politique explicitement comme il aimerait le faire croire. Il l'est forcément, il l'est pas mal même du coup vu tout ce que je viens de dire, mais il l'est quelque part de façon impensée, inconsciente. Salut Jung, et voilà, on peut les prendre à leur propre jeu, mais il ne dit pas, enfin non, il dit des choses de la société japonaise, mais il n'est pas aussi rebelle que ça, quoi. Voilà, c'est juste ça en fait. Il n'est pas aussi rebelle que ça, pas du tout même. Et c'est intéressant hein, parce que c'est une des caractéristiques du capitalisme d'absorber et de recracher et d'intégrer les critiques qu'on lui fait pour les rendre lisses. Je crois que c'est Marcuse, un philosophe américain des années 60, qui disait ça. Et là, on peut le constater totalement, quoi. Dans une société hyper capitaliste qu'est le Japon, le fait d'arriver à rendre la critique du capitalisme cool et intégrée au système. Et quelque part, on devrait se contenter de ça et ça devrait servir d'exutoire cathartique pour nos envies de rébellion. Et on a joué à Persona, on a pu incarner un mec qui réforme la société. Du coup, on peut continuer à vivre notre vie tranquille et accepter que le Japon soit une société qui, je sais pas moi, exploite les gens d'une manière assez horrible. Moi, ce qui m'a choqué d'ailleurs dans le jeu, c'est qu'on est court tout le temps, quoi, même le samedi. C'est pas grand-chose, mais ils ont pas beaucoup de temps libre, les lycéens japonais, si j'en crois Persona. Ça, pareil, c'est pas un truc sur lequel on s'arrête, mais qui est intéressant à noter. Et finalement, c'est ça presque, si j'en reviens à l'impensé de la structure du jeu, de la façon dont on gère le temps comme une ressource, et les relations sociales comme des façons de gagner des choses et des avantages, et des ressources aussi, quelque part. Bah presque, ce qui parle le plus et ce qui est le plus politique, ce sont les structures du jeu et les structures de gameplay. Sauf que c'est de la politique qui n'est. C'est pas le message du jeu, du tout. C'est pas pensé, c'est pas explicite. Mais quelque part, j'ai plus ressenti le poids et la domination de la société capitaliste en étant trimballé de jour en jour et en ayant très peu de temps pour vivre ma vie et faire des hobbies et en essayant de réfléchir à mes relations sociales comme des avantages que ça pouvait me faire avoir et comme des tâches à accomplir. Là, je me suis senti bien matrixé et bien aliéné par le jeu, dans ses structures de gameplay, mais c'est pas ce qu'il voulait me faire ressentir, je crois. Et pourtant, la critique politique se fait beaucoup plus dans les systèmes de jeu que dans le propos du jeu, même si le jeu aimerait qu'on pense l'inverse. Voilà. Du coup, Persona 5, pas vraiment un jeu de rebelle, un jeu avec un excellent système de combat, hein, ceci dit, je le rappelle, mais qui en envoie plein les yeux, plein les oreilles, que je peux recommander, même si encore une fois, il y a pas mal de parties qui ne sont pas recommandables. Il y a aussi d'ailleurs toute cette idée de... On passe beaucoup plus de temps, c'est un article aussi que j'ai lu sur Waypoint, le site de Vice américain dédié aux jeux vidéo, et c'est un truc que j'ai, un malaise que j'ai ressenti aussi en jouant, on passe beaucoup plus de temps avec les bourreaux qu'avec les victimes. Et il y a beaucoup de personnages avec qui on passe beaucoup de temps, même dans notre équipe, qu'on ne connaît pas tant que ça finalement, qui restent des archétypes, qui ont une histoire un peu triste, mais qu'on n'apprend pas et qui ne sont pas vraiment si épais que ça. Alors même qu'on a beaucoup de temps et beaucoup de rédemption et d'espace laissé aux méchants pour se racheter. Même là, c'est assez discutable aussi comme point de vue. Mais bon, vous voyez que finalement, la politique de Persona 5 n'est pas aussi pop-punk que ce qu'on pourrait croire. Et encore une fois, elle est présente de façon beaucoup plus implicite et pernicieuse que le propos un peu rebelle, picaresque 2.0 que le jeu veut vous vendre. Et vous vendre d'ailleurs plusieurs fois, puisqu'il y a Persona 5 Royal qui est sorti, donc une édition avec quelques changements augmentés et tout. Après, il y a eu Persona 5 Strikers, qui est une sorte de jeu d'action dans l'univers de Persona. Il y a eu un animé, il y a eu un manga. Enfin bref, Atlus, c'est pas les derniers pour capitaliser sur leur propriété intellectuelle. Du coup, c'est assez fou, hein. Tous ces petits paradoxes. Il y a même, je crois, qu'est-ce qui est sorti ? Des machines à sous Persona 5 récemment, ouais. Voilà, donc un bon jeu de rebelle, effectivement, jusqu'au bout. Hein. Empêche que bah, je ferai peut-être un autre Persona, pas tout de suite, parce que beaucoup de choses à digérer, beaucoup de temps passé à jouer, et puis que, quelque part, est-ce que j'ai encore envie de donner de l'argent à Atlus, vu la vision de la société qu'il semble promouvoir ? Pas sûr, donc au pire, je le piraterai. Et là, je serai un vrai Phantom Thief, hein, quelque part. Merci d'avoir écouté, c'est un peu long, je suis désolé, j'ai essayé de parler vite et d'aller les... C'est un épisode dense, hein, je crois. J'avais pas de notes, encore une fois, donc désolé si c'est fouillis, j'espère que ça ne l'est pas trop. J'avais un propos clair, un truc à dire, donc j'espère que ça se ressent. Si ça vous a plu, dites-le moi, parce que... je sais que là, je suis un peu moins posé que dans les autres épisodes, je parle un peu plus vite, mais en même temps... Vous avez accès à différents modes, hein, voilà. Là, je sais pas, c'est le mois de juin, il fait très chaud, je devrais être en train de corriger des copies de bac et je ne le fais pas. Voilà, donc je suis un peu dans la mouvance, quoi, on va dire, dans la kiffance, hein, de l'été qui arrive, des choses à faire, etc., etc. Une autre approche. Si elle vous saoule, dites-le, comme ça je pourrais adapter. Peut-être qu'il faut que je parle moins vite, peut-être qu'il faut que je sois plus posé, comme dans l'épisode d'avant. Ou bien au contraire, ça vous a plu, il y avait plus de punch, c'était plus pop-punk. Et si vous avez des remarques sur Persona, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que je suis trop méchant, que c'est vraiment un jeu de rebelle, eh bien faites-moi signe. Je pense que Persona 5 dans notre village du JRPG, ce serait évidemment le rayon bio des supermarchés. On veut avoir bonne conscience, mais finalement pas tant que ça. Bon, c'est un peu nul, ouais. Il y a peut-être mieux à trouver. Mais j'ai pas du tout réfléchi comme l'autre fois. Je vous ai demandé l'autre fois de me donner des trucs, vous m'avez pas dit. Donc, sympa. J'espère qu'au moins vous mettrez 5 étoiles. C'est soit vous me donnez une métaphore pour Chrono Trigger ou pour Persona, soit vous mettez 5 étoiles. C'est pas je fais rien. Hein. S'il vous plaît, un peu de respect. Merci. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, me donner de l'argent sur PayPal. Vous pouvez aussi attendre avec impatience le prochain épisode qui sera sur je ne sais pas quoi. J'ai commencé 10 000 JRPG. C'est très très ambitieux et bête de ma part. Je ne sais pas lequel je finirai en premier. Je joue en vrac à quoi ? Lost Odyssey, FF10, le premier Dragon Quest, Get in the Car, Loser. Voilà, c'est trop. Trop de jeux, trop de JRPG, c'est n'importe quoi. Il y en a 10 000 qui ont passé à la trappe sûrement, mais il y en a forcément un avec lequel je vais rester. On verra bien. Voilà, je vous fais des bisous. Merci à tous, merci à toutes. J'ai pas d'idée de métaphore pour Persona 5, mais imaginez un Persona à la française. Ça, ce serait un truc à faire, quoi. On va en cours avec Monsieur Roustan, en cours de techno. Après, on traîne au square parce qu'on est à Montargis et qu'on a rien à foutre. Et après, on va taper des démons dans une grange. Ce serait génial. Et après, on va voter NUPES. Imaginez, pour contrecarrer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ça serait incroyable comme jeu, n'est-ce pas ? Non, mais vraiment, quoi. Un Persona à la française, ce serait vraiment stylé. Je suis disponible pour y réfléchir avec celles et ceux qui veulent se lancer dans ce projet incroyable. Et voilà, maintenant je peux vous le dire. N'oubliez pas de faire de votre mieux dans la vie comme dans le jeu pour passer au niveau supérieur. Plus dans le bus.